maintenant nous concentrer sur la parole de Dieu. Je voudrais lire un passage qui se trouve... On m'entend ? C'est bon ? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, les premiers versets. Un jour de Shabbat, Jésus étant allé dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Or, un homme rempli d'édème se trouvait devant lui. Jésus prit la parole et dit aux professeurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du Shabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus toucha le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt après, même le jour du Shabbat ?» Et ils furent incapables de répondre à cela. Irai dans l'évangile de Matthieu, cette fois-ci, au chapitre 7, à partir du verset 14. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, hein ? Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre produit de bons fruits. Mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront en ce temps-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui connaissez, qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je les comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Un dernier texte qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 4. Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans le temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. C'est en effet par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Elle ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler aujourd'hui justement de ce que je viens d'évoquer. Dieu a préparé en Jésus-Christ des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions et les a préparées d'avance. Quand je regarde les œuvres de l'Église ou les œuvres des chrétiens en général, et les miennes aussi, je me rends compte qu'elles n'ont pas toujours autant de succès que l'on peut en espérer. Et je voudrais que nous réfléchissions ensemble aux raisons pour lesquelles il en est ainsi. Si je relis ce passage, je répète que Jésus a préparé d'avance en Jésus-Christ des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Mais ceci étant dit, il faudrait surtout que ce message de ce matin ne soit pas reçu non plus comme un reproche. J'ai eu à cœur quelque chose que je vais vous partager maintenant. Un verset que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le livre des Hébreux au chapitre 6, verset 10. Dieu est fidèle. Il n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et votre travail. Il n'est pas injuste pour oublier le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, recevront l'héritage promis. Je dis ça, c'est que quelquefois, on s'est lancé dans des choses, bon, et ça n'a pas porté le fruit que l'on attendait. On a été quelquefois un petit peu déçus du résultat. Mais Dieu n'est pas injuste pour ne pas avoir vu le zèle que les uns et les autres ont mis. Et Dieu ne veut pas vous décourager. Ça, c'est une chose importante. Et si nous sommes chrétiens, faisons attention à ne jamais décourager un frère. Quand il fait quelque chose, bon, il ne le fait pas toujours très bien. Il arrive quelquefois que ça foire, excusez-moi du terme, mais au moins ça a l'avantage d'être compris par tout le monde. Ça n'empêche pas qu'il l'avait fait avec amour, qu'il l'avait fait avec le désir profond de servir son Dieu. Faisons attention à ce que des paroles assassines, quelquefois, ne soient pas prononcées. Dieu est fidèle. Dieu est toujours sensible aux zèles que les uns et les autres déploient pour son service et son amour. Faisons attention. Quelquefois, il arrive que des chrétiens soient maladroits. Il arrive que des chrétiens ne fassent des choses, bon, pas de la manière dont il aurait fallu qu'ils le fassent, mais s'ils le faisaient dans l'intention de servir leur Dieu et de l'honorer. Dieu salue le zèle des chrétiens et il n'est pas oublieux. Je pense que c'était une chose qu'il fallait dire. Bon, maintenant, j'en reviens aux œuvres. Pourquoi les œuvres que les chrétiens font n'apportent pas toujours autant de fruits que ce que l'on pourrait espérer? Moi, je pense qu'il y a d'abord une raison. C'est que les chrétiens que nous sommes, je fais partie du lot, ne sont pas toujours suffisamment attentifs. Ils n'écoutent pas toujours suffisamment le Seigneur. Invoque-moi, le Seigneur, et je te répondrai. En clair, je te montrerai ce que j'attends de toi. Mais toi, souvent, tu n'attends pas que le Seigneur te montre ce qu'il attend de toi. Tu te lances dans des choses. Et comme ce ne sont pas des choses qui sont vraiment dans le plan de Dieu, ben, elles ne portent pas autant de fruits que ce que tu pourrais espérer. Je suis quand même frappé, moi, je le dis. Vous savez, dans les réunions de prière, on prie souvent, le Seigneur dit, pour qu'il nous dirige par le Saint-Esprit. Quelquefois, le Seigneur nous montre une direction pour la prière. Et je suis surpris, et je cache personne. Mais quand j'entends aussitôt après quelqu'un qui fait une prière qui n'a absolument rien à voir avec ce qui vient d'être dit, il y a quand même un problème. Quand nous sommes ensemble en réunion de prière, nous invoquons le Seigneur pour qu'il nous parle. Et quelquefois, il nous montre des directions. Il nous montre dans quel sens il faut prier. Et quelqu'un derrière se met à prier pour tout à fait autre chose. Non pas que la raison pour laquelle il prie ne soit illégitime, mais ce n'est pas le moment, c'est tout. Je pense qu'il y a un manque d'écoute. Il faut que nous écoutions le Seigneur. Si Josué n'avait pas été à l'écoute du Seigneur, jamais il n'aurait pensé à faire le tour de Jéricho en soufflant dans des trompettes. Oui ou non ? C'est évident. Bon, donc par conséquent, si nous voulons comprendre quelles sont les œuvres que le Seigneur attend de nous, il faut que nous soyons capables d'être à l'écoute. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles les œuvres ne marchent pas toujours autant qu'elles devraient l'être, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment à l'écoute. Une chose actuelle, on se plaint beaucoup que l'évangélisation que l'on fait ne porte pas toujours autant de fruits que ce qu'on pourrait en espérer. Il y a une expérience récente qui vient d'être faite. Bon, l'autre fois, Lydie nous en parlait, le turning. Bon, il y a une pensée de Dieu qui est venue à un serviteur, bon, qui a donné une certaine forme d'évangélisation, une certaine forme nouvelle. Ben, on s'aperçoit de quoi ? Ben, je ne vais pas dire que c'est la révolution avec un grand R, mais que cette forme d'évangélisation rapporte davantage de succès que les méthodes que l'on avait utilisées auparavant. Pourquoi ? Parce que quelqu'un ou quelques frères se sont mis à écouter le Seigneur et ils ont entendu une direction. Et quand ils sont allés dans cette direction, ben, ils ont obtenu davantage de succès que d'habitude. Bon, je ne vais pas dire là qu'on a tout compris, que tout est résolu par le turning, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais quand même, ça me montre simplement que quand on est capable d'être un petit peu plus attentif à ce que dit le Seigneur, les résultats sont meilleurs. Est-ce que je veux continuer à faire de l'évangélisation ou faire des œuvres chrétiennes de la même manière que celles que j'ai toujours faites, avec les résultats que je connais ? Ou est-ce que je veux me laisser interpeller par le Seigneur pour faire ce qu'il me demande ? Une chose à remarquer, c'est que Jésus lui-même disait, il ne faisait jamais autre chose que ce qu'il voyait faire par son Père. Il ne se lançait pas lui-même dans des entreprises insensées. S'il voyait que son père faisait ces choses-là, ben il faisait la même chose que lui. Et nous, c'est à combien plus forte raison, si Jésus agissait de cette manière, nous devions agir de la même façon. Regardons ce que le Père fait, regardons ce que Jésus fait, et faisons la même chose. Non ? Amen. Ne nous laissons pas... embarquer dans des plans pas possibles qui vont nous fatiguer et qui ne porteront pas les fruits qu'on pourrait attendre. Bon, ça, je pense que c'est une première chose. Je pense que si les œuvres que l'Église et les chrétiens n'ont pas suffisamment de succès, une des raisons, c'est ça. C'est le manque d'écoute. Bon, c'est-à-dire que les chrétiens se lancent dans des opérations de toutes sortes sans avoir vraiment consulté le Seigneur au préalable. Bon, donc, du fait, vous savez que la parole de Dieu dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui construit, construit en vain. Bon, donc, il y a beaucoup de peine beaucoup de sueur quelquefois, et le résultat, malheureusement, n'est pas toujours à la hauteur des espérances. Il y a une deuxième raison pour laquelle les œuvres que les chrétiens font ne réussissent pas toujours autant qu'elles devraient l'être. C'est qu'elles ne sont pas toujours faites pour un bon motif. Je m'explique. Quand on regarde la parole de Dieu, on est quand même un petit peu étonné de ce que Jésus dit. Il y en a certains d'entre vous qui m'appelleront Seigneur, Seigneur, et qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Excusez-moi, mais ceux qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur, ce n'est pas les bouddhistes. On est bien d'accord, il s'agit bien des chrétiens. Et certains répondent, mais n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ? N'avons-nous pas vous prophétisé en ton nom ? Si ça, ce n'est pas des œuvres pour Dieu, on ne comprend pas. Et pourtant, il dit, éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi je parle de ça ? c'est que les œuvres que l'on fait pour le Seigneur, aussi bonnes soient-elles, n'arriveront jamais à compenser les mauvaises choses que par ailleurs nous avons faites. Je crois que je peux faire de bonnes œuvres. Je peux passer des heures et des heures à faire l'évangélisation, à prier, à lire la parole de Dieu, etc. Si je ne me repens pas à des choses mauvaises que j'ai pratiquées, eh bien, le Seigneur te dira, je ne te connais pas, éloigne-toi de moi, toi qui connais l'iniquité. Je crois qu'il faut comprendre que si nous pensons que par nos œuvres, nous allons réussir à compenser nos péchés, nous faisons erreur. Et ça, je pense que si notre motivation pour faire les œuvres est celle-là, nous nous trompons lourdement. Le salut nous est accordé par grâce et il n'est pas accordé parce que nous aurions fait de bonnes œuvres. Donc si nous faisons de bonnes œuvres uniquement dans le but d'obtenir un salut ou un pardon, nous nous mettons le doigt dans l'œil. Le pardon des péchés n'est pas obtenu de cette manière-là. Les œuvres, nous les faisons non pas pour obtenir quelque chose en retour, mais parce que nous aimons Dieu. Ça, c'est une chose importante. Est-ce que ma motivation pour faire les œuvres de Dieu, c'est mon amour pour le Seigneur? Si la motivation est autre, alors il ne faut pas que je sois surpris que mes œuvres se traduisent par un flop. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Ceci étant dit, il ne faut quand même pas être trop dur avec les chrétiens. Beaucoup, quand même, font des œuvres par amour pour le Seigneur. Il faut quand même le dire. Il ne faut pas non plus exagérer, ça serait pas bien non plus. Alors, pourquoi les œuvres des chrétiens bien motivés n'aboutissent quand même pas toujours à de bons résultats? Une des raisons, c'est la peur. Les gens ont peur. Pierre a eu peur. Quand les Romains sont arrivés pour arrêter Jésus, il a eu peur. Il a eu peur à tel point qu'il a suivi quand même Jésus de loin, et quand il s'est retrouvé dans la cour du temple, quelqu'un a dit, celui-là, il était aussi avec eux. Il dit, non, je ne connais pas, je n'ai jamais connu. Il a eu peur. Il y en a d'autres qui ont eu peur. Marc, l'évangéliste, quand il s'est retrouvé à Éphèse avec Paul, et qu'il a vu que les gens d'Éphèse, étaient tout à fait contre Paul, étaient prêts même à le lapider, il a eu peur. Et il est parti. Paul lui a reproché d'ailleurs. C'est à cause de ça qu'il y a eu une dispute entre Paul et Barnabas à ce propos-là. Mais finalement, plus tard, Marc est revenu. Et c'est à cause de lui que nous avons, ou grâce à lui plutôt, nous avons l'évangile de Marc. La peur, il y a un passage aussi qui en parle dans le livre des Juges à propos de Gédéon. Il est dit quoi? Je l'ai écrit quelque part, il faut que je le retrouve. Oui. Juge 7. Le peuple d'Israël est prêt pour une bataille. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. C'est pour dire ceci, c'est que même les meilleurs, à un moment, ils ont eu peur. Bon, ceci étant dit, quand on voit l'attitude de Jésus par rapport à ces gens, par rapport à Pierre, quand Pierre a retrouvé Jésus après la résurrection, Pierre ne savait plus où se fourrer, parce qu'il avait honte de ce qu'il avait fait. Il avait eu honte d'avoir eu peur et d'avoir dit à ces gens qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Est-ce qu'il lui a demandé pourquoi il avait eu peur? Non, il n'a pas demandé pourquoi il avait eu peur. Il lui a posé simplement une question toute simple. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Je veux dire par là que tous autant que nous sommes, moi aussi, il y a des moments, j'ai eu peur. Je n'ai pas toujours eu le culot de faire ou de dire ce que j'ai pu dire ou faire. À certains moments, je me suis dégonflé parce que j'ai eu peur. Mais le Seigneur sait toutes choses. Il sait que nous sommes faits de la poussière de la terre. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il a toujours su. Jésus ne va pas m'accabler parce que j'ai eu peur. Et il me regarde, plein de compassion, il me dit, Jean-Michel, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Tu sais bien que je t'aime. Il répète une seconde fois, Jean-Michel, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Tu sais bien que je t'aime. Alors, paix mes brebis. Paix mes brebis. Ça, c'est une chose extraordinaire. Même, je me suis dégonflé parce que j'ai eu peur. Ça, c'est le propre de l'homme. Tout le monde, à un moment ou à un autre, a eu peur. Tout le monde, à un moment, n'a pas fait ce qu'il aurait pu faire ou dû faire. Dieu ne reproche pas ça. Dieu nous demande simplement s'il nous aime, si nous l'aimons. Il y a une autre raison encore pour que des gens bien disposés ne réussissent pas dans les œuvres qu'ils font. C'est qu'ils ont quelquefois le sentiment que le Seigneur leur en demande trop. Ce que le Seigneur me demande, c'est trop, je n'y arriverai pas, c'est trop dur. Je dirais que ceci, Jésus a dit lui-même, mon fardeau est doux et léger. Amen. Il n'est pas dans la volonté de Dieu de mettre un éléphant sur le dos de quelqu'un. Mon fardeau, dit Jésus, est doux et léger. Il y a aussi autre chose, c'est les faux arguments bibliques, je dirais. Je m'explique. Tout à l'heure, j'ai commencé ma prédication, j'ai lu le texte où Jésus était invité chez des pharisiens et qu'il observait. Et il a vu un homme qui était rempli d'édèmes. Ceci étant dit, je fais remarquer que l'édème, c'est quand même pas une catastrophe. C'est pas comme s'il était un aveugle de naissance ou paralysé, etc. L'édème, bon, c'est pas méchant quand même l'édème. Bon, c'est désagréable, mais il y a pire quand même que l'édème. Et il a posé cette question aux pharisiens. Est-il permis, oui ou non, de guérir un homme le jour du Shabbat? Il n'a pas eu de réponse. Mais on sait très bien ce que les pharisiens pensaient de la question. Mettre en avant un argument biblique. Un autre argument qui est donné, par exemple, par certains, cite Jésus pourtant, hein, Matthieu 10, verset 37. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Ça, c'est un argument que certains servent. Vous avez certains frères ou sœurs, on le voit. Ils sont tellement à des réunions, tellement souvent à des réunions, que leur propre famille est délaissée. Et quelquefois, leurs propres enfants se détournent de Dieu. Pourquoi? Parce que leur père ou leur mère, qui se dit chrétien, les a laissés tomber. Pour être sans arrêt à des réunions, pour faire soi-disant le travail de Dieu. Mais la parole de Dieu dit aussi quoi? Honore ton père et ta mère. C'est le commandement de Dieu. Et il est dit aussi, Marc 7, verset 11, Si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, il annule la parole de Dieu. Ça aussi, c'est biblique. Celui qui n'a pas compassion des siens, et particulièrement ceux de sa famille, c'est ce que Paul dit dans son épître à Timothée, il est pire qu'un infidèle, il a renié sa foi. Alors je disais que ce que le Seigneur demande, les bonnes œuvres aussi, quelquefois ça peut être simplement si quelqu'un de ta famille est en situation difficile, va vers lui et occupe-toi de lui. Il ne s'agit pas toujours forcément d'aller à l'autre, aux autres extrémités du monde. Il faut que je sois sensible à ce que le Seigneur me demande. Si à côté de moi, quelqu'un est malade ou dans la peine, l'œuvre que Dieu attend de moi, c'est que j'aille passer du temps avec lui, que j'aille lui porter le réconfort dont il a besoin, que j'aille prier pour lui, que j'aille éventuellement lui imposer les mains. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi faire ? Pour que j'aille aux antipodes, c'est pas ce qui est dit dans la parole de Dieu. Pour que j'aille porter la délivrance à celui qui est captif, pour que j'aille porter la guérison à celui qui est malade. Est-ce que j'entends cette chose-là ? Mais quelquefois, je suis tellement orgueilleux que moi, ces choses-là, c'est vraiment de l'arroupissage. Je n'ai pas envie de m'occuper de ça. Moi, je préfère aller aux États-Unis. Je préfère aller aux extrémités du monde. Et là, tout le monde, je serai devant un auditoire et on m'applaudira parce que je prêche bien. Je dis, attention, quand même, attention. Le Seigneur me dit, quelquefois, tu as à côté de toi et dans ta propre famille quelqu'un qui souffre et qui a besoin de ta prière et toi, tu t'en vas de l'autre côté du monde. Attention, les œuvres de Dieu. Mes pensées ne sont pas tes pensées, dit Seigneur. Tes voix ne sont pas mes voix. Est-ce que je suis prêt à entendre ce que le Seigneur me dit ? Ça, c'est une chose extrêmement importante. En fait, ce que Dieu n'aime pas et qu'il veut nous partager aussi, et particulièrement aujourd'hui, c'est l'indifférence. Jésus était invité dans ce groupe chez les pharisiens, mais il a vu un homme qui était rempli d'édèmes. Il a eu compassion de lui. Alors il a dit, bon, je suis invité, d'accord, mais priorité des priorités, cet homme-là a besoin de moi. Alors avant d'aller me goinfrer de ce qui a été préparé par la maîtresse de maison, je vais d'abord aller prier pour ce malade, même si c'est le jour de Shabbat. Est-ce que je comprends ce que le Seigneur me demande ? Alors, si je suis prêt à écouter ce genre de choses, si je suis prêt à écouter ce que le Seigneur me dit, alors les œuvres que je vais accomplir, elles seront celles que le Seigneur a préparées d'avance pour que je les accomplisse. Et je verrai que par ça, le Seigneur est glorifié. Je loue le Seigneur pour ses œuvres qu'il a préparées d'avance. Je te prie, Seigneur, pour que nous ne soyons pas compliqués et pour que nous comprenions vraiment ce que tu attends de nous. Je vais lire encore Hébreux 5 que j'ai lu tout à l'heure. Hébreux 6, pardon. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Je n'ai pas assisté tout à l'heure, mais je le relis. Il n'est pas injuste pour oublier le travail de votre amour. Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur veut dire ? Seigneur, je te loue et je te bénis pour ce que tu veux faire avec nous. Pardon, Seigneur, pour la surdité. Pardon, Seigneur, pour l'orgueil. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons cherché notre propre gloire plutôt que de chercher l'amour de Dieu. Seigneur, je te prie, pour que nous soyons attentifs à ce que tu dis aujourd'hui. Apprends-nous à savoir nous confier en toi. Apprends-nous à réaliser que tu as préparé de bonnes choses. Les choses que tu nous as appelées à faire ne sont pas trop grosses pour nous, parce que tu sais de quoi nous sommes faits. Tu sais que nous ne sommes pas capables de porter un éléphant sur le dos, et tu ne nous le demandes pas. Mais je te prie, Seigneur, pour que nous soyons attentifs à ce que tu nous demandes et que nous ne tardions pas à t'obéir pour la gloire de ton nom. Amen.